On va aborder ce soir l'étude des grandes invasions. Le 5e siècle, en effet, a été marqué par la disparition de l'Empire romain d'Occident sous le coup des barbares qui, au début, avaient pénétré plus ou moins pacifiquement dans l'Empire et qui, profitant de la désintégration interne de l'Empire, eh bien, sont entrés en masse pour finalement le détruire. Détruire cet empire-là. En 395, le dernier empereur, on pourrait dire, de l'Empire uni, Théodose, meurt, et l'Empire est divisé entre ses deux fils, et la division entre Empire d'Orient et Empire d'Occident devient dès lors un fait accompli. Non seulement sur le plan culturel, économique, mais également sur le plan politique. Il y a donc maintenant deux entités qui sont sur les ruines de l'ancien Empire romain. 395, mort de Théodose, le dernier grand empereur. Et en 476, l'Empire d'Occident disparaît sous le coup des barbares avec la chute de Rome. De ce fait, le pape devient le premier personnage de Rome, d'une part, puisqu'il est le seul à rester en poste, et en même temps, le premier personnage du défunt Empire romain d'Occident. Et les barbares qui ont pénétré dans l'Empire sont divisés en un certain nombre de peuplades et de tribus qui vont démembrer l'Empire romain et constituer des royaumes indépendants sur les ruines de cet empire d'Occident. Alors, voici grosso modo comment se répartissent ces royaumes barbares. Les Vandales s'emparent du sud de l'Espagne, notamment de l'Andalousie, qui est une abréviation de Vandalousie, n'est-ce pas ? Et de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord chrétienne devient vandale. Tandis qu'au nord de la péninsule ibérique et jusqu'en Aquitaine s'installent les Visigoths. L'Italie tombe sous la coupe des Ostrogoths. Quant aux autres Goths, on n'en parle pas. Les Burgondes s'installent dans la partie est de la Gaule, dans ce qui viendra la Bourgogne, qui vient du mot Burgonde, justement, tandis que le nord de la Gaule est occupé par les Francs, qui donneront leur nom, d'ailleurs, à la France. Enfin, en Angleterre, s'installent les Anglo-Saxons. Or, sur le plan religieux, l'invasion de ces peuples barbares et l'éclatement de l'Empire romain posent bien sûr de nombreux problèmes. Parce que un des facteurs d'unité du monde romain était justement le christianisme. Le christianisme qui avait été calqué dans son administration sur l'administration de l'Empire et qui était une administration parallèle de l'Empire. L'unité du monde romain étant brisée, c'est l'unité de l'Église également qui est brisée. Mais non seulement sur le plan administratif, l'unité de l'Église d'Occident est brisée, mais aussi sur le plan doctrinal. En effet, les Anglo-Saxons et les Francs sont carrément païens, n'ont aucune référence chrétienne. Et les autres peuples, Vandales, Visigoths, Ostrogoths, etc., sont ariens. Ils sont chrétiens, mais ils continuent à professer l'hérésie arienne qui a été condamnée au Concile de Nicée. Et cette menace de l'arianisme que l'on croyait donc liquidée à la fin du IVe siècle, voilà maintenant qu'elle ressurgit dans les limites de l'ancien Empire romain, sous la pression, justement, de ces peuples barbares. En fait, dans cette deuxième partie du 5e siècle, les seuls pays qui continuent à professer un christianisme de type orthodoxe, disons, sont la Bretagne et l'Irlande. Voyez-vous. Et notamment, grâce à cette influence des monastères fondés par les moines irlandais, dont nous avons parlé ensemble la dernière fois, et qui sont, ce faisant, les plus anciennes formes de monachisme. Alors la situation est certes critique. Néanmoins, il faut quelque peu tempérer ce sombre tableau, dans ce sens que, pour arien qu'il soit, ou même païen, la plupart des envahisseurs sont tolérants à l'endroit des chrétiens locaux, mis à part les Vandales. Les Vandales qui, eux, sont des gens particulièrement difficiles. D'ailleurs, c'est même devenu une expression proverbiale dans notre langue. Un Vandale, c'est quelqu'un qui ne respecte rien, qui sabote, qui détruit, qui pille tout ce qui tombe à sa portée. Hein. Mais les autres étaient relativement tolérants. Et c'est alors que un événement va permettre au christianisme orthodoxe de se redresser en Europe occidentale. C'est la conversion du roi franc Clovis, lequel Clovis, en 436, se convertit au christianisme, sous l'influence de son épouse Clotilde, qui était, dit-on, très pieuse. Apparemment, il n'en allait pas de même de Clovis, si l'on en croit l'histoire du vase de Soissons. Toujours est-il que Clovis s'est converti manifestement pour des raisons politiques, non pas convaincu par la vérité du christianisme, mais pour des raisons politiques. Pourquoi ? Parce qu'il était précisément en guerre avec les autres peuples barbares pour le contrôle de la Gaule, et que s'il se convertissait au christianisme orthodoxe, il aurait ipso facto l'appui de l'Église. Or, Clovis était un homme intelligent, et Clovis avait compris que le christianisme orthodoxe, catholique, disons, orthodoxe au sens, bien sûr, de vérité, quoi, hein, pas au sens qu'on lui donne aujourd'hui. Mais le christianisme catholique, par opposition au christianisme arien, hérétique, donc, eh bien, constituait malgré tout une force importante en Gaule. Pourquoi ? Parce qu'il représentait, en fin de compte, la seule réalité organisée. En fait, au moment de l'effondrement de l'Empire romain, des structures administratives, économiques, politiques de l'Empire romain, dans la mesure où l'Église avait, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une structure et une administration parallèle à celle de l'Empire, eh bien, cette structure avait surnagé. Et elle représentait la seule structure qui restait encore dans l'Empire romain. Et là apparaissent les bases de ce que deviendra, par exemple, le christianisme du Moyen Âge. On peut dire qu'avec les invasions barbares, naît le christianisme du Moyen Âge. C'est-à-dire le christianisme qui est étroitement imbriqué dans les rouages de l'État. Par exemple, tout ce qui concerne l'État civil, par exemple, va maintenant devenir le monopole de l'Église catholique. Un certain nombre de propriétés foncières et par conséquent de l'administration économique du pays va aussi être régi par le clergé catholique, en sorte que le clergé catholique devient, au bout de quelques années, de quelques dizaines d'années après les invasions barbares, une puissance avec laquelle il est impossible de ne pas compter. En outre, comme nous l'avons vu, eh bien, cette deuxième partie du 5e siècle va être le grand essor des monastères, monastères qui vont devenir les refuges de la culture, les refuges de l'art, et ce faisant, on peut dire que le patrimoine culturel, artistique, voire même administratif de l'Europe, du Bas-Empire romain, va être sauvé par le clergé, et notamment le clergé régulier, c'est-à-dire le clergé des monastères. Clovis accomplit ça. Clovis accomplit en outre que, à cause des problèmes doctrinaux qui divisaient orthodoxes et ariens, il y avait un conflit irréductible entre les deux tendances du christianisme. Et comme ses adversaires étaient ariens, Clovis avait pensé que s'il se convertissait au christianisme catholique, il aurait l'appui du clergé, donc il aurait derrière lui toute cette puissance qui représentait le rouage essentiel de la Gaule. Et ainsi, pensait-il, il pourrait arriver à ses fins, c'est-à-dire devenir le roi de la Gaule tout entière, unie sous son sceptre. Et c'est ainsi que cette même année 436, Clovis est baptisé par l'évêque Rémy à Reims. Une cérémonie qui est restée célèbre, en sorte que, depuis lors, la France a pris le titre de fille aînée de l'Église, parce qu'elle est la première, le premier pays issu des invasions barbares à revenir dans le giron de l'Église catholique après l'influence des païens ariens qui étaient venus mettre un peu la pagaille dans les autres pays. Or, très vite, Clovis se rend compte qu'il a toutes les raisons de se féliciter de son choix. En effet, le catholicisme se joint à lui, et grâce à cet appui, Clovis parvient d'une part à s'emparer du territoire des Burgondes, puis ensuite chasser les Visigoths d'Aquitaine et les refouler au-delà des Pyrénées. Ce qui veut dire qu'à peu de choses près, Clovis devient le seul maître de la Gaule. Clovis ne se contente pas dès lors d'être seulement un chef politique, mais également il entend constituer une église nationale, une église qui serait à ses ordres. Et ce faisant, Clovis renoue avec une tradition, déjà une tentation qu'avaient connue Constantin et ses successeurs immédiats, la tentation du césaropapisme. C'est-à-dire, le chef temporel est aussi le chef spirituel. Et ce faisant, Clovis pose les germes d'une tendance qui, depuis Clovis jusqu'à nos jours, a toujours été le démon de l'Église catholique française, si j'ose dire, le gallicanisme. À savoir, le désir que l'Église de France, qui se targue justement de sa primauté de fille aînée de l'Église, n'est-ce pas, eh bien, d'avoir une certaine indépendance, une certaine autonomie, voire même carrément une rupture totale avec Rome, n'est-ce pas, un petit peu de la même nature de ce qui s'est passé au moment de la réforme en Angleterre, où l'Église d'Angleterre a rompu avec Rome. Cette tentation, nous allons la retrouver dans l'histoire de l'Église catholique française à différentes reprises, bien sûr à l'époque de Louis XIV essentiellement, et puis aussi finalement encore jusqu'au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, il y aura encore des tendances gallicanes dans le clergé français, et même jusqu'à ces derniers temps, n'est-ce pas, il y a toujours un certain désir d'indépendance de l'Église française, l'Église catholique française par rapport à Rome. Clovis est le premier donc à introduire cet état d'esprit dans l'Église de ce que l'on commence à appeler maintenant la France, donc une Église nationale avec des liens très lâches avec Rome. Et son exemple, n'est-ce pas, va être contagieux. En effet, quelque temps plus tard, les Visigoths en Espagne reviennent eux aussi au catholicisme. Ils abandonnent l'arianisme et ils reviennent au catholicisme. Mais alors eux sont encore beaucoup plus radicaux que Clovis, et l'Église espagnole rompt tout lien avec Rome et devient une Église autocéphale, une Église autonome, qui est administrée par son propre clergé en liaison avec les autorités politiques du pays. Pendant ce temps-là, dans le sud de l'Espagne et en Afrique du Nord, où, vous le savez, l'Afrique du Nord était un des berceaux du christianisme des premiers siècles, n'est-ce pas, les grands centres, n'est-ce pas, d'Afrique du Nord, avec Tertullien, Carthage, etc. Bon. Et là, l'Église d'Afrique du Nord a un temps particulièrement difficile avec les Vandales, jusqu'au moment... Dans les premiers temps, les choses se passent à peu près bien, dans ce sens que le premier roi vandale, dont le pouvoir est encore un peu branlant, lui fait montre d'une certaine tolérance. Mais son successeur, alors lui, qui est arien fanatique et arien convaincu, eh bien, se met à persécuter les églises orthodoxes. Par exemple, les bâtiments des églises sont confisqués par le roi et mis à la disposition des ariens. Les non-ariens sont donc chassés de ces bâtiments d'église, et le roi va jusqu'à établir un patriarche arien à Carthage. Alors, il est évident que dans cette situation-là, les choses sont extrêmement difficiles pour ceux qui veulent rester fidèles à l'orthodoxie. Dans le même temps, en 466, avons-nous vu, il y a la conversion donc des Visigoths au christianisme catholique, avec le roi Éric, qui d'ailleurs a été chassé peu de temps de France par Clovis, ainsi que son successeur, qui lui sera tué par ce même Clovis dans une célèbre bataille qui a lieu à Vouillé, non loin de Poitiers. En 508, Clovis s'empare de Paris, dont il fait, sinon sa capitale, du moins une ville extrêmement importante. En Italie, nous avons vu, les Ostrogoths s'étaient installés. Ils avaient laissé le pape à Rome, mais ils avaient transféré leur capitale politique à Ravenne. Et c'est alors que, quelques années plus tard, eh bien, un roi des Visigoths, qui se nomme Théodoric, se convertit lui aussi au christianisme catholique. Et non seulement cela, mais il va jusqu'à tenter de reconstituer l'Empire romain. Il pense que sa conversion, pour être conséquent avec sa conversion nouvelle, sa foi nouvelle, eh bien, il doit militer en tant que chef temporel pour que soit reconstitué l'Empire romain qui a ainsi été démembré. Cet Empire romain, évidemment, doit se reconstituer autour de Rome, et comme il est le roi du royaume d'Italie, c'est à lui d'œuvrer dans ce sens-là. Alors il envoie un message à l'empereur d'Orient, l'Empire d'Orient continue, lui, à subsister intact, n'est-ce pas, pour se reconnaître vassal de l'empereur d'Orient. C'est en même temps un homme qui est assez tolérant, et il est le premier, notamment, à prendre la défense des Juifs. Les Juifs, en effet, voient avec les invasions barbares leur statut se modifier pour le pire. Les Juifs s'étaient installés en Europe sur les pas des envahisseurs romains, et il y avait en particulier de très nombreuses colonies juives dans le sud de la France, la région de Narbonne en particulier, qui était province romaine déjà depuis, même avant la conquête de la Gaule par César. Et ces Juifs avaient été tolérés, bien sûr, par les empereurs romains païens, puis ensuite par le christianisme naissant avec des hauts et des basses, les choses avaient été à peu près harmonieuses, à peu près bonnes. Seulement, avec les invasions barbares, les choses changent. Pourquoi ? Eh bien, parce que il y a un bouleversement total, nous avons vu, de la situation. Et notamment, dans ce bouleversement-là, le niveau intellectuel et spirituel des prêtres baisse dangereusement. On n'a plus trop le temps, n'est-ce pas, de former des prêtres d'une manière sérieuse et d'une manière profonde. Et beaucoup de prêtres sont des gens qui sont sans grande instruction, qui ne connaissent pas grand-chose de la Bible, qui sont tout juste capables de dire une messe, de prononcer les formules rituelles, mais qui sont incapables d'enseigner le peuple. En fait, nous avons vu, cette fonction revient essentiellement aux moines, au clergé régulier. Le clergé régulier, le clergé des monastères, lui, continue à être un clergé instruit. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a justement l'essentiel du savoir. Par contre, ce que l'on appelle le clergé séculier, c'est-à-dire le clergé qui vit dans le siècle, lui, est un clergé souvent ignorant et frustre. Et le peuple, n'est-ce pas, notamment ces nouveaux convertis barbares, ariens, qui sont pleins de bonne volonté, parce qu'on leur a dit de l'être, vous savez, cuius religio, disait-on dans ce temps-là, dans le patois de l'époque, c'est-à-dire la religion du prince, c'est aussi la religion du peuple. Bon, Clovis se convertit, tous les guerriers de Clovis se convertissent comme un seul homme. Théodoric se convertit, tous les Ostrogoths se convertissent comme un seul homme. Bon, ces gens-là, il faut les instruire. Or, les prêtres qui sont là, qui sont d'ailleurs beaucoup trop peu nombreux, pour soudain faire face à cet afflux de nouveaux convertis, eh bien, ne sont pas à la hauteur de la situation. Ils sont incapables d'évangéliser ces gens-là. Résultat, beaucoup de ces gens-là se tournent vers les Juifs, parce que les Juifs, eux, sont des gens, au contraire, qui ont une connaissance de la Bible qui manque aux prêtres. Et alors, plutôt que de se convertir au christianisme, il y a beaucoup de ces barbares qui se convertissent au judaïsme. Et l'Église s'en émeut. Elle s'émeut notamment de la popularité des Juifs au sein des populations barbares. Et l'Église, le clergé, va tenter de mettre un coup d'arrêt à cette évolution-là, en tentant de discréditer les Juifs auprès du menu peuple. Et c'est le début de l'antisémitisme chrétien officiel, professé par l'Église. Bon, il y avait déjà eu depuis Constantin, et même déjà avant, un anti-judaïsme théologique, n'est-ce pas, basé sur un certain nombre de clichés, d'ailleurs inexacts, par exemple, que les Juifs étaient les assassins du Christ. Ils ont crucifié le Christ. Ce qu'on trouve encore chez même de nombreux chrétiens qui répètent inconsciemment cette affirmation atavique et bibliquement fausse, puisque le supplice de la croix était un supplice romain. Ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus et non pas les Juifs. Alors on dira les Juifs, enfin, les chefs juifs ont livré Jésus aux Romains, mais il est certain que c'était un complot romain contre Jésus. Quels sont les chefs juifs qui ont livré Jésus? C'était justement ce qu'on appellerait aujourd'hui les collaborateurs, les Sadducéens, ceux qui étaient les créatures des Romains, n'est-ce pas? Mais les Romains ont tiré les ficelles tout du long dans cette affaire. Mais à partir de Constantin, et même un peu avant, déjà chez le Père de l'Église, dès le IIe siècle, on trouve ça chez Justin Martyr déjà, n'est-ce pas, l'accusation de déicide. Les Juifs ont crucifié Jésus, et ce faisant, ils se sont rendus coupables d'un crime absolument impardonnable, parce que Jésus étant Dieu, ils ont tué Dieu, comme si on pouvait tuer Dieu. Et par conséquent, ils se sont rendus coupables du crime impardonnable de déicide, c'est-à-dire les assassins de Dieu. Et ils sont pour cela maudits pour toute l'éternité. Il y aura une malédiction qui, de génération en génération, reposera sur eux, selon le cri qu'avait poussé leur chef, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Donc, de génération en génération, les Juifs seront une race maudite. Bon, ça existait déjà, donc depuis les pères de l'Église. Mais l'Église de la fin du 5e siècle va ajouter à cet antisémitisme, ou cet antijudaïsme, disons plutôt qu'antisémitisme théologique, n'est-ce pas, qui s'ajoute, auquel s'ajoutent aussi les autres accusations, par exemple de d'avoir d'avoir n'avoir pas cru en Jésus, n'est-ce pas, et de, etc. Mais ils vont maintenant, l'antisémitisme chrétien, proprement dit, va naître. Parce que l'on va ajouter des accusations qui n'ont plus rien à voir avec des accusations d'ordre théologique, mais qui sont des accusations vraiment méchantes. Par exemple, il y a cette idée qu'on trouvait déjà chez les Romains, on trouve chez certains auteurs romains, Tacite et autres notamment, n'est-ce pas, que les Juifs adorent une tête d'âne. Et que, notamment, la nuit de Pâques, eh bien, ils enlèvent un jeune enfant chrétien, un jeune garçon, pour l'égorger, pour prendre son sang qui est mélangé au pain azyme. Et sans cela, eh bien, on ne peut pas célébrer la Pâque chez les Juifs. Et cette accusation a eu la vie dure, puisqu'on la retrouve encore de nos jours, par exemple, en Arabie Saoudite. Le gouvernement saoudien, n'est-ce pas, diffuse actuellement, auprès des étrangers qui visitent l'Arabie Saoudite, des textes dans lesquels cette accusation réapparaît. Au début de notre siècle, dans les années 20, les Français qui avaient un mandat sur la Syrie ont dû mettre fin à un massacre qui avait eu lieu à Alep au moment de la fête de Pâques, parce que, soi-disant, que les Juifs avaient capturé un enfant syrien, arabe, n'est-ce pas, pour l'égorger, prendre son sang, etc. Donc, cette accusation naît à cette période-là. Et le but, c'est de discréditer l'autorité des Juifs auprès des masses païennes et barbares, ou ariennes. Bien, il y a aussi d'autres accusations du même ordre qui vont naître à cette période, à savoir que les Juifs sont des gens fourbes, des gens menteurs, dans la parole desquels il est vain de vouloir se confier, que ce sont aussi des gens libidineux qui séduisent les jeunes filles et les femmes chrétiennes, n'est-ce pas, pour avoir des relations illicites avec elles, etc. Et cet ensemble d'accusations, eh bien, va faire en sorte que, au bout de quelques années, le peuple, le menu peuple, barbare, superstitieux, peu instruit, va croire à ce genre d'accusations. Et non seulement les Juifs, l'autorité des Juifs va être sapée et détruite, mais également il va y avoir une véritable haine populaire qui va naître pour les Juifs, contre les Juifs. C'est ainsi que nous voyons ce phénomène tout à fait étonnant, savoir que pendant les premières années des invasions barbares, le menu peuple tenait les Juifs en haute estime et en haute considération, et les dignitaires de l'Église étaient violemment anti-juifs. Et à la fin du siècle et au début du siècle suivant, eh bien, la tendance est complètement renversée, à savoir que c'est le menu peuple qui est vraiment antisémite, au sens profond du terme, tellement que le clergé, le haut clergé qui a d'ailleurs lancé le mouvement, est parfois obligé de mettre des freins, dire attention, n'en rajoutez pas quand même, parce que, notamment au moment de la Pâque, eh bien, les foules fanatisées par les prêches des prêtres, n'est-ce pas, n'hésitent pas à venir venger sur les assassins du Christ, le sang qui a ainsi été versé, le sang du Messie, le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et beaucoup de Juifs paient de leur vie l'imprudence qu'ils ont eue, par exemple, de sortir le vendredi saint au soir, par exemple. Ça, c'est extrêmement courant, à partir de cette période-là, de voir des massacres de Juifs, pillages, destructions et exactions diverses, pratiquées justement par des gens qui sortent du service religieux du Vendredi Saint et qui viennent se venger, du moins penser qu'ils vont venger la mort du Christ sur les descendants de ces assassins, les Juifs qu'ils ont sous la main. Alors l'Église est obligée de mettre les holà et de protéger malgré tout les Juifs pour quand même que les choses ne dépassent pas certaines limites. Et c'est alors que va paraître, on nous dit, l'Église du Moyen Âge, les bases de l'Église du Moyen Âge. Bien, sur le plan théologique, on va se trouver constamment plongé dans la même dialectique qui avait précédé l'invasion barbare, c'est-à-dire le problème du conflit entre la grâce, la prédestination et le libre arbitre. C'est la grosse question théologique qui préoccupe l'Occident dans cette période. En fait, c'est le conflit qui avait éclaté entre Augustin et Pélage, quelques années plus tôt, et dont nous avons déjà parlé. Augustin, qui enseignait la déchéance totale de l'homme, donc que l'homme était sauvé par la pure grâce de Dieu et qu'il était incapable de contribuer à son salut en quoi que ce soit, notamment il était incapable de contribuer à son salut par ses œuvres, et Augustin aboutissait à cette idée que si l'homme était sauvé, c'était par un acte totalement gratuit de la volonté de Dieu, donc une prédestination. Et contre cette doctrine s'était élevé Pélage, qui lui affirmait que le péché n'avait pas altéré la nature de l'homme, que l'homme restait capable de choisir le bien et de se détourner du mal, que par conséquent Jésus n'était qu'un exemple que l'on devait imiter et que son sacrifice n'avait aucune valeur expiatoire, et que ce faisant, l'homme était capable de mériter son salut par ses propres œuvres. Ce conflit, qui avait éclaté donc au début du siècle, notamment par ce moine irlandais, qui était Pélage, parce qu'il est originaire de ce mouvement de réveil de l'Irlande, n'est-ce pas ? Va forger le catholicisme du Moyen-Âge, dans ce sens que l'Église ne tranchera pas entre les deux extrêmes, mais va essayer de trouver une voie médiane. Et la doctrine officielle de l'Église catholique, jusqu'à nos jours, est un semi-pélagianisme, dans ce sens qu'on ne nie pas la valeur expiatoire du sacrifice de Jésus, mais en même temps, on affirme que l'homme, effectivement, reste capable de contribuer sous l'effet de la grâce à son salut par ses bonnes œuvres. Donc, que la nature humaine en est capable, et ce faisant, l'homme est amené à mériter le ciel. C'est ainsi que le pape Félix va entériner cette doctrine qui a été élaborée par des moines semi-pélagiens qui se sont installés dans le monastère de Lérins et qui vont, en quelque sorte, apporter le point final à ce conflit qui avait éclaté entre Augustin et Pélage et qui s'était poursuivi pendant toute la plus grande partie du siècle. Alors, pendant que ces dramatiques événements se produisent en Occident, quelle est l'évolution de l'Église d'Orient ? Eh bien, l'Église d'Orient a continué à vivre sans être inquiétée par des événements politiques du même ordre que ceux qui troublaient la marche de l'Église d'Occident. Et c'est ainsi que l'Église d'Orient va poursuivre son travail d'élaboration de la christologie. Et en même temps, va continuer son élan missionnaire. Il y a deux grandes conquêtes sur le plan missionnaire qui ont lieu à cette époque-là, l'Éthiopie et l'Arménie. L'Arménie, où on peut dire un véritable réveil, au sens profond du terme, secoue ce pays qui était resté païen jusqu'alors. C'est ainsi, par exemple, que les chrétiens d'Arménie redécouvrent le baptême par immersion. Il est fort regrettable qu'à cette période, la littérature arménienne ait été détruite. L'Arménie également avait rejeté à cette période la notion d'église d'État, qui était un fait admis partout dans l'Empire romain et en Occident. Et en même temps, le réveil arménien mettait l'accent sur l'importance de la communauté locale, sur l'autonomie de cette communauté locale pour permettre l'épanouissement de l'individu, sa progression spirituelle et sa rencontre réelle avec Dieu. Dans le même temps, on va se dégager ici un certain nombre d'éléments qui vont aussi marquer le christianisme du Moyen Âge. Ainsi, par exemple, que les édifices de culte s'enrichissent énormément. D'abord, il y a les ex-voto, ceux qui ont été bénis et qui ont reçu de Dieu l'exaucement de quelques prières, font don à l'Église d'une partie de leurs biens ou d'objets d'art qui vont maintenant orner les églises. Et en l'espace de quelques années, les églises s'ornent justement de ces objets d'art, d'or, d'argent, de pierres précieuses, à partir desquels d'ailleurs souvent on fabrique des statues, des images et des objets divers, plus ou moins pieux, qui vont servir à décorer les églises. Et les églises, au moment même où le peuple souvent est dans une pauvreté criante, les églises vont être des lieux d'opulence et de richesse qui tranchent justement avec ce dénuement d'un certain nombre de populations qui, en principe, eh bien, se retrouvent aussi dans ces églises-là. C'est aussi la période où l'Église va insister sur la valeur du travail. Il y a, dans cette dernière partie du siècle, une véritable mystique du travail, un culte du travail, qui est d'ailleurs une notion totalement étrangère à l'Évangile, à la Bible en général, et qui se retrouve jusqu'à nos jours, non seulement dans une certaine théologie catholique, voire même protestante, mais également dans la société tout entière, avec le marxisme, ou des doctrines du même ordre, socialistes, qui ne se rendent pas compte que dans ce domaine-là, elles sont influencées, sans même en avoir conscience, par une vision catholique qui remonte à cette période de la fin du 5e siècle. Dans la mesure où le 5e siècle est aussi un siècle de grands bouleversements, de guerres et de troubles, eh bien, il est certain que la misère augmente dans des proportions extrêmement importantes. Les épidémies, les maladies, les famines, conséquences des troubles politiques et militaires, eh bien, se multiplient. Et c'est alors que les monastères vont prendre à cœur cette misère du peuple qui l'entoure, et notamment, les monastères vont devenir dans ce domaine des lieux d'accueil. Des lieux d'accueil pour les plus démunis et les plus défavorisés. Et les monastères, notamment sous l'impulsion des moines irlandais, puis ensuite les bénédictins, qui vont naître un peu après, eh bien, les monastères vont être des lieux où l'Évangile va être vécu, où ceux qui ont faim vont pouvoir être nourris. Et aussi, c'est dans cette mouvance des monastères que vont se créer les premiers hôpitaux, où les malades vont être soignés. On peut dire que l'œuvre sociale de l'Église, qui sera finalement la seule source de réconfort pour les plus démunis pendant tout le Moyen-Âge, naît à cette période également. Et pendant tout le Moyen-Âge, cette œuvre sociale de l'Église va être extrêmement importante, avec les hôtels-dieux, les hôpitaux, les orphelinats, toutes sortes de moyens du même ordre qui vont être multipliés par l'Église pour pouvoir secourir les plus démunis, les malades, les vieillards, etc. Et c'est pourquoi, quand on veut porter un jugement sur l'Église du Moyen-Âge, il nous faut être aussi nuancé. Il y a eu, au Moyen-Âge, certes, des aberrations inacceptables dans le domaine de la foi, si l'on pense aux croisades, si l'on pense à l'Inquisition, si l'on pense au césaropapisme, si l'on pense à cet enrichissement de l'Église, etc. Mais à côté de cela, il y a eu aussi une somme de dévouement, une somme de prise en compte, si vous voulez, d'un certain nombre de données de l'Évangile parmi les plus fondamentales qui soient, notamment justement l'aide aux plus démunis, aux défavorisés, etc., eh bien, qui sont absolument remarquables et absolument admirables et que l'on ne peut qu'approuver. Pourquoi il nous faut nous garder d'avoir un jugement sans nuance sur l'Église du Moyen-Âge. Dans le même temps, il est vrai, il y a aussi des aberrations qui commencent à naître. Par exemple, c'est la période où naît également, notamment dans l'Église d'Occident, l'idée que l'Eucharistie, le repas du Seigneur, reproduit le sacrifice de Jésus. C'est un retour, si vous voulez, à la notion juive du sacrifice, et par la liturgie, qui d'ailleurs se développe aussi d'une manière très importante à cette période-là, pour prendre une forme stéréotypée qui, avec Grégoire le Grand, deviendra la messe telle qu'elle a existé jusqu'à une période récente, n'est-ce pas ? Eh bien, cette liturgie reproduit le sacrifice du Christ et dans les formes qui étaient celles du culte juif qui se pratiquait dans le temple de Jérusalem. En même temps, cette liturgie eucharistique, cette liturgie sacrificielle, s'enrichit d'apports du paganisme dont elle fait une synthèse. Ainsi que l'Église devient, au dire des théologiens de l'époque, une sage éducatrice, car elle se sert des apports du paganisme pour éclairer ceux qui ne sont pas des personnes instruites. Et dans le même ordre d'idées, l'Église catholique va développer de manière très forte le culte des martyrs, le culte des reliques notamment. Et là, je vous renvoie à ce que nous avons écrit dans l'expérience à ce niveau-là, c'est cette importance des reliques qui va être une des marques du christianisme du Moyen-Âge, en sorte que chacun voudra posséder les reliques les plus rares et les plus précieuses, et alors pour ce faire, on n'hésitera pas à piller, à voler, à tuer, à détruire, à employer tous les moyens, n'est-ce pas, pour obtenir les reliques les plus précieuses et les plus vénérées. Et la mystique des pèlerinages, qui va marquer le Moyen-Âge, notamment les grands pèlerinages, à Saint-Jacques de Compostelle, qui sera le plus grand pèlerinage du Moyen-Âge, qui va drainer des foules venues de toute l'Europe, n'est-ce pas ? Des milliers de pèlerins, que dis-je, des millions de pèlerins, pendant toute la durée du Moyen-Âge, vont descendre à Saint-Jacques de Compostelle, souvent dans des conditions de souffrance inouïe d'ailleurs, n'est-ce pas ? Beaucoup n'en reviendront pas, mourront dans cette route. Mais dans le fond, ils le cherchent d'une certaine manière, mourir après avoir été prier, n'est-ce pas, sur le tombeau de Saint-Jacques, eh bien, c'est ce que la plupart d'entre eux souhaitent. Et en même temps, ils s'efforcent de ramener de ce pèlerinage des reliques vénérées, des reliques sacrées. Et il n'est pas rare que des sanctuaires, par exemple, qui sont sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, soient pillés, que les prêtres ou les moines qui s'occupent de ces monastères soient massacrés parce que, précisément, des pèlerins assez peu scrupuleux, eh bien, ont voulu ramener des souvenirs de leur pèlerinage par des moyens qui étaient plus que discutables. Donc, ce culte des martyrs. En même temps, on voit apparaître un autre culte qui existait déjà dans le christianisme, mais qui va prendre aussi une importance démesurée. Maintenant, c'est le culte de la Vierge, le culte marial. Bon, qui existait déjà depuis Éphèse, notamment le concile d'Éphèse, nous avons vu où Marie est proclamée Théotokos, mère de Dieu. Mais là, maintenant, n'est-ce pas, Marie devient une véritable déesse à côté du Christ, n'est-ce pas ? On pourrait dire qu'elle occulte la troisième personne de la Trinité, elle occulte le Saint-Esprit, et elle devient, en fait, dans la réalité, non pas dans la théologie officielle, mais dans la pratique, elle devient la troisième personne de la Trinité. Et le culte marial, à partir de la fin du 5e siècle, tant en Occident qu'en Orient d'ailleurs, n'est-ce pas, prend une importance absolument démesurée. Beaucoup d'églises, par exemple, sont dédiées à la Vierge Marie, et dans la foulée, n'est-ce pas, de ce culte marial, apparaît aussi le culte de la virginité. Le mariage devient presque assimilé au péché, et l'idéal qui est proposé aux multitudes de chrétiens, c'est l'idéal de la virginité. Et c'est ce qui permet d'ailleurs de fonder de nombreux monastères, parce que nombreux sont les jeunes gens et les jeunes filles qui, séduits par cet idéal de la virginité, à l'exemple de Marie, vont se consacrer aux ordres. Et l'Europe, n'est-ce pas, l'Europe occidentale va se couvrir d'une foule de monastères, d'ermitages, de couvents divers, dans lesquels vont se rassembler donc des membres, des religieux des deux sexes, qui vont ainsi contribuer d'ailleurs à aussi développer tous ces différents aspects positifs dont nous avons parlé, le secours aux plus démunis, etc., et puis tout l'héritage culturel et spirituel des époques précédentes. Bien, le deuxième endroit, n'est-ce pas, où va apparaître un réveil à cette période, c'est l'Éthiopie. Nous en avons parlé tout à l'heure. Le roi Ezana, non pas Ezano, se convertit au christianisme et fait du christianisme une religion d'État. Nous en avons déjà parlé. Et le christianisme éthiopien va devenir un christianisme proche du christianisme égyptien, à cause de la proximité géographique des deux pays. Et de ce fait, lors de la controverse des deux controverses qui vont marquer le 5e siècle, c'est-à-dire le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine, eh bien, l'Éthiopie va basculer dans l'hérésie monophysite. Jusqu'à nos jours, le christianisme éthiopien, qui a subsisté depuis cette époque-là, est resté un christianisme monophysite, séparé de Rome, donc une des rares églises orientales que l'on appelle église non chalcédonienne, pour lesquelles les deux natures de Christ, la nature humaine et la nature divine, sont confondues. Je vous rappelle ce que nous avions vu à ce niveau-là. Aux confins de l'Empire d'Orient, on trouve aussi un petit royaume à cette époque-là qu'on appelle le royaume d'Édesse. C'est un royaume qui est issu de la décomposition de l'Empire séleucide au moment de la poussée de l'Empire romain, si vous voulez, qui jusqu'au IIIe siècle a gardé son autonomie. Et au IVe et Ve siècle, ce royaume d'Édesse va être le refuge, justement, de toutes ces sectes non chalcédoniennes qui vont se trouver persécutés après le concile de Chalcédoine. Et vont se réfugier là, d'ailleurs, souvent des âmes d'élite, qui vont donner au christianisme d'Édesse, au christianisme non chalcédonien d'Édesse, un lustre et un panache tout à fait important. Par exemple, le 5e siècle est l'âge d'or de la poésie syriaque, qui va avoir Édesse pour cadre. Bon, là, nous retrouvons très fort aussi l'influence sémitique, et un certain nombre de groupes juifs chrétiens qui ont été persécutés vont se réfugier également à Édesse et influencer le christianisme d'Édesse. Et notamment, ils vont contribuer à la diffusion de cette version de la Bible en syriaque que l'on appelle la version Peshito, c'est-à-dire simple, un petit peu c'est le pendant de la Vulgate, c'est exactement la même démarche, mettre le texte de la Bible à la disposition du menu peuple, que chacun soit capable de le lire, donc dans une langue simple, d'où le nom de Peshito qui lui est donné, et qui est aujourd'hui encore une des plus anciennes versions de la Bible, extrêmement intéressante et extrêmement précieuse pour l'étude de l'histoire du texte biblique. Et les traducteurs de la Bible sont souvent amenés, lorsqu'un texte est obscur, à se référer à la version Peshito pour essayer de trouver le véritable sens. Dans la mesure où nous sommes ici dans une pensée sémitique, Et bien souvent, la version Peshitto nous donne le véritable sens d'un texte biblique, ancien ou nouveau testament, qui par ailleurs est obscur. C'est pas toujours le cas, ça ne marche pas toujours à 100%, mais très souvent ça marche. Et alors, Aedes apparaît la version du Nouveau Testament en syriaque, jusqu'alors n'existait que l'Ancien Testament, sans toutefois l'Apocalypse et sans les épîtres de Pierre. Pourquoi ? Parce que le christianisme d'Aedes ne reconnaissait pas comme canonique ces livres-là. Il ne reconnaissait pas les épîtres de Pierre comme canonique non plus que l'Apocalypse. Voyez-vous, le canon était encore à peine fixé à cette époque-là et il ne faisait pas encore l'unanimité dans tout le monde chrétien. Notamment les églises schismatiques, les églises hérétiques, n'est-ce pas, n'avaient pas tout à fait le même canon que les églises orthodoxes. Enfin, il y avait l'influence des Perses qui s'exerçait aussi à Aedes, et cela se manifestait aussi par un certain nombre de points de vue théologiques un peu discutables, notamment teintés de manichéisme, c'est-à-dire, vous savez, cette idée dans laquelle il y a deux dieux, le dieu du bien et le dieu du mal, le dieu de la lumière et le dieu des ténèbres, qui sont en conflit les uns contre les autres. Pendant ce temps, n'est-ce pas, que se passait-il en Syrie? Eh bien, la Syrie continuait à vivre, à promouvoir un ascétisme de plus en plus désincarné. Nous avons vu que dans la première moitié du siècle était né en Syrie un mouvement anachorète extrémiste et excessif qui aboutissait aux aberrations des stylites, notamment avec Siméon, qui avait vécu plus de 38 ans en haut d'une colonne de 60 mètres. Et la même évolution se poursuivait à la fin du siècle en Syrie. Il s'agissait de vivre dans un corps comme si on n'avait pas de corps. En fait, c'était là l'idéal des moines syriens. Il fallait mener une vie semblable à celle des anges. Et pour les moines syriens, l'homme n'avait pas d'autre réalité que son âme. Il s'agissait de nier que l'homme, en fait, est un corps. Et à cette époque-là, outre les moines dont nous avons déjà parlé, Siméon, Éphrène et d'autres, va apparaître un moine qui va avoir un certain rôle jusqu'à nos jours, notamment, c'est un certain Maron. Lequel Maron s'était installé à côté d'une grotte dédiée à une divinité païenne pour essayer d'en supplanter l'influence auprès des populations païennes qu'il entendait évangéliser. Et pour cela, il essayait de montrer qu'il était... Il menait une vie d'une sainteté exemplaire pour que ces gens-là puissent se convertir au christianisme. Et pour montrer des prouesses spirituelles, il s'était fait enfermer dans une cage et attaché avec des chaînes de fer. On lui apportait à manger matin et soir. Et il a vécu des années jusqu'à sa mort dans cette cage enchaîné par des chaînes de fer. Et autour de lui, eh bien, il y avait des disciples qui venaient et qui l'enseignaient. Et à partir de sa cage de fer, il a fondé ainsi des monastères. Des monastères dans les environs immédiats. Et c'est ainsi que, à partir de 444, il y avait tout autour de cette région de la Syrie, la côte syrienne, n'est-ce pas, de nombreux moines qui sillonnaient les campagnes pour les évangéliser. Et ces gens-là ont eu un certain succès auprès des populations, notamment à cause de cette sainteté, du moins entre guillemets, n'est-ce pas, qu'il manifestait, qui influençait, qui impressionnait énormément les populations au milieu desquelles il vivait. C'était des gens qui vivaient dans la pauvreté, le dénuement le plus complet, à l'exemple de leur maître Maron. Et les couvents, par exemple, qui étaient fondés, ne vivaient que d'aumône. Ils ne vivaient que de ce qu'on leur donnait. Quand il y avait, on leur donnait, bien, ils mangeaient. Quand il n'y avait rien, ils ne mangeaient pas. Il faut nuancer aussi dans ce sens qu'un certain nombre d'entre eux, malgré tout, se sont mis à travailler. Et un certain nombre de couvents créés en Syrie et dans ce qui est aujourd'hui le Liban, eh bien, vivaient aussi d'agriculture et d'artisanat. Et un certain nombre de ces couvents ont eu la même influence que les moines irlandais en Irlande, en Angleterre et ici dans notre Bretagne, dans ce sens que des villages se sont créés autour des monastères qui se sont mis à prospérer, qui se sont mis à se développer. À sa mort, Mahon, bien sûr, a été canonisé. C'était son but, d'ailleurs. Et en fait, oui, c'était son but, mais dans une certaine bonne intention, dans ce sens qu'on venait en pèlerinage, si vous voulez, auprès des grottes où s'étaient manifestées les divinités païennes. Et maintenant, au lieu de venir en pèlerinage pour honorer les divinités païennes, on venait en pèlerinage au même endroit pour honorer le saint qui ainsi avait consacré sa vie de manière exemplaire. D'après la tradition qui existe encore de nos jours, d'ailleurs, Mahon continuerait à faire des miracles, il y a des gens qui sont guéris, etc. Bon, quand ils viennent prier sur la tombe de Saint Mahon, et à cause de cela, Mahon a donné son nom à ce qu'on pourrait appeler le christianisme syrien, le christianisme oriental, que l'on appelle jusqu'à nos jours maronite. Et les maronites, vous savez, sont l'essentiel du christianisme libanais. Les Libanais, aujourd'hui, les chrétiens libanais, l'essentiel des chrétiens libanais, sont appelés maronites parce que ce sont les disciples de Saint Mahon, ceux qui ont été, les descendants de ceux qui ont été évangélisés par Saint Mahon. Un petit peu plus au sud, dans le pays d'Israël, la situation évolue un petit peu dans le même sens. Par exemple, l'évêque de Jérusalem, qui se nommait Cyrie à cette époque-là, avait compris qu'il devait catéchiser son monde et profitant de la vague des pèlerinages qui poussait vers la Terre Sainte des milliers et des milliers de pèlerins, il avait entrepris d'écrire un catéchisme qui devait garder les pèlerins dans la stricte orthodoxie qui était, hélas, à cette époque-là contestée par les monophysites, notamment Nestorien et autres gens semblables. À cette époque-là, Jérusalem était une cité splendide. Jérusalem connaissait un de ses âges d'or. C'est une des époques de l'histoire de Jérusalem où la ville a été le plus étendue et le plus développée. Elle avait été entièrement reconstruite en 450 par l'empereur Théodose II, qui avait voulu en faire une ville digne des mystères qui s'étaient accomplis en son sein. Et c'est pourquoi il avait complètement reconstruit Jérusalem dans les limites pratiquement qui avaient été celles de ces époques de gloire qu'il avait précédées. Nous entendons parler par exemple aussi du fait que lors du concile de Chalcédoine, Jérusalem était un patriarcat encore autonome à cette époque-là, bien que la Terre Sainte elle-même était une petite province, mais l'importance de Jérusalem sur le plan biblique faisait qu'on avait continué à considérer Jérusalem comme un patriarcat autonome. La ville de Jérusalem était traversée elle-même par une voie royale qui allait du nord au sud, qui la traversait toute droite, comme c'était le cas dans les villes romaines, sur laquelle il y avait des magnifiques colonnes de marbre, et il y avait sous ces colonnades, il y avait possibilité d'installer des marchands. Il y avait un immense marché qui était posté de chaque côté de la voie royale, qu'on appelait le Cardo Maximus de Jérusalem, qu'on a retrouvé dans des fouilles archéologiques récentes, vous l'avez vu quand on est allé la dernière fois à Jérusalem. Et ce Cardo Maximus aboutissait à une église gigantesque, une des plus grandes églises qui existait dans l'Empire byzantin à cette époque-là, qu'on appelait l'église Néa, la nouvelle église, dédiée à la Vierge Marie, comme il se doit, puisque, on l'a vu tout à l'heure, le culte marial prenait une importance démesurée dans le christianisme de cette période-là. Mais dans le même temps, les non-chalcédoniens, eux aussi, établissaient une structure parallèle à l'église orthodoxe. C'est ainsi que, à côté de ce qu'on appelait les églises melkites, c'est-à-dire les églises orthodoxes, du mot hébreu et araméen melech, qui signifie roi, dans ce sens que les chrétiens melkites étaient les chrétiens qui étaient fidèles à la foi du roi, de l'empereur, n'est-ce pas, donc les chrétiens orthodoxes. Aujourd'hui encore, les chrétiens d'Orient, qui sont rattachés aux grandes églises, par exemple catholiques ou orthodoxes, officielles, chalcédoniennes, eh bien, sont appelés chrétiens melkites. Parmi les rites orientaux, eh bien, nous trouvons les melkites. Les maronites, par exemple, dont nous parlons il y a un instant, sont des melkites. Par contre, les églises non chalcédoniennes, monophysites, jacobites, nestoriennes et autres, sont des églises, qu'on appelle aujourd'hui assyriennes, bien, sont des églises qu'on ne considère pas, des chrétiens qu'on ne considère pas comme melkites. Et à Jérusalem même, se sont installées, malgré les persécutions dont ils ont été l'objet, des églises non chalcédoniennes, nestoriennes. Aujourd'hui, les églises nestoriennes s'appellent les églises assyriennes. Les églises assyriennes existent encore, par exemple, en Syrie et en Irak, bien qu'elles aient été décimées par des persécutions qui ont éclaté dans les années 50, et notamment en Irak, la plupart des chrétiens assyriens ont été massacrés presque jusqu'au dernier homme. Personne n'a levé le petit doigt pour les défendre, ni pour les protester, ni pour protester contre ces massacres-là. Bon, jusqu'à ce que, quand même, au bout de, dans les années 60 et 70, on s'émeuve un peu de ce massacre de ces chrétiens assyriens, qui, du fait qu'ils n'étaient pas rattachés à Rome non plus, n'ont pas été défendus par Rome. Et donc aujourd'hui, la communauté assyrienne d'Irak est en renaissance, elle est en train de se développer à nouveau. Le gouvernement syrien, le gouvernement irakien actuel, eh bien, agit avec davantage de tolérance, notamment sous la pression internationale, vis-à-vis des chrétiens assyriens, ou encore, si vous voulez, les chrétiens nestoriens. Bien, alors, nous trouvons aussi les églises monophysites syriennes, que l'on appelle jacobites. Aujourd'hui, ces églises jacobites existent en Syrie. Nous trouvons aussi parmi les rites orientaux ce qu'on appelle les coptes qui sont des non-chalcédoniens et qui sont essentiellement regroupés en Égypte. Parmi les pèlerins les plus célèbres de cette époque, il faut citer deux personnages extrêmement importants. D'une part, Mélanie, qui était une riche patricienne qui, après avoir fait une expérience spirituelle, a vendu tous ses biens et est venue fonder des monastères, de nombreux monastères en Terre Sainte. Elle a été extrêmement active dans ce domaine-là et des monastères qui, eux, avaient pour but le secours pour les plus défavorisés, des hôpitaux, des maisons d'accueil pour les pèlerins, etc. Et à ce niveau-là, il faut dire que cette femme a fait quand même un travail assez remarquable dans cet aspect-là. Et puis ensuite, il faut citer Eudoxie, qui était la femme de l'empereur Théodose II, qui avait été répudiée par son mari. Et après avoir été répudiée par Théodose, elle est venue s'installer à Jérusalem pour y finir ses jours. Elle a été... Eudoxie. Et cette femme est devenue disciple de Cyrille d'Alexandrie notamment, et dans ce sens-là est venue aussi créer un certain nombre de monastères à Jérusalem avec l'appui de Cyrille d'Alexandrie. Il faut dire aussi que dans la même période, son mari Théodose II avait déclenché des persécutions antisémites du même ordre que celles qui avaient éclaté en Occident, et ceci pour les mêmes raisons. Il y avait une espèce de symbiose à ce niveau-là qui s'était produite entre l'Orient et l'Occident. Et l'antisémitisme chrétien naît à la fois en Occident et en Orient à cette même époque-là. Enfin, il faut citer alors là des ermites, deux ermites extrêmement importants. Eutyme, qui en 405 fonde Delors dans le désert de Juda. Et Sabas, qui est, lui aussi va créer des ermitages, si vous voulez, dans les déserts. Et c'est ainsi que le christianisme oriental va connaître, à l'inverse du christianisme occidental, un grand émiettement. Un grand émiettement que l'on trouve jusqu'à nos jours, bien sûr, qui n'a plus la même importance qu'il avait à cette époque-là, parce qu'entre-temps est intervenu l'islam, si bien que le christianisme, toute tendance confondue en Orient, est maintenant devenu extrêmement minoritaire. Mais même dans cet ensemble extrêmement minoritaire, eh bien, il y a un très très grand émiettement du christianisme oriental, en sorte que les difficultés sont loin d'être abolies. Et nous pourrions dire que quand on parle justement de la déchirure de la tunique sans couture du Christ, vous savez qu'est le thème favori des œcuménistes de tout poil et de tout crin, et qui prétendent que c'est en fait la réforme qui a déchiré la tunique sans couture de Christ, il nous faut reconnaître que si on veut être vraiment objectif, c'était bien avant que cela s'était produit. Mais dans la mesure où ces communautés-là, nestoriennes, assyriennes, jacobites et tout ce qu'on voudra, ont été quasiment exterminées par l'islam, n'est-ce pas ? Eh bien, on pouvait considérer que c'était quantité négligeable dans une perspective catholique et romaine, n'est-ce pas ? On pouvait considérer que ça n'existait presque plus. Et encore aujourd'hui, si ces communautés sont quasiment abandonnées par l'Église catholique notamment, et très souvent je reçois la littérature des maronites du Liban qui se plaignent que, bien que rattachés au siège de Rome, puisque au XVIIe siècle les maronites sont rattachés à Rome, n'est-ce pas, eh bien ils sont abandonnés par le pape. Le pape ne lève pas le petit doigt pour protester contre la situation au Liban, eh bien c'est tout simplement parce que Rome a intérêt à voir disparaître ces chrétientés-là qui sont irrécupérables, qui ne sont pas du tout ouvertes à l'œcuménisme et qui constituent un démenti justement à l'idée de catholicité qui est celle de l'Église catholique. Et comme elles sont quantité négligeable, autant qu'elles disparaissent, n'est-ce pas, et Rome laisse faire, n'est-ce pas, faire à ce niveau-là. On peut évidemment s'interroger sur le cynisme d'une pareille attitude et d'un pareil comportement. C'est pourquoi il est bon que nous, chrétiens non romains, eh bien, nous sachions que ces chrétientés-là existent, même si nous ne sommes pas toujours d'accord avec eux, mais elles existent et qu'en tant que chrétiens non romains, eh bien, nous avons peut-être aussi vis-à-vis d'eux des responsabilités que les grandes églises plus ou moins abdiqué et abandonné pour des raisons que j'évoquais là il y a un instant. Voilà, nous en resterons là pour ce soir. Est-ce que vous avez rapidement une ou deux questions à poser ?